Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Dans 30 minutes, nous parlerons du Gabon au lendemain de la victoire écrasante de Brice Clotaire-Oligui Nguema, élu président dès le premier tour. Selon les chiffres provisoires communiqués hier par le ministère de l'Intérieur, le tombeur d'Ali Bongo a recueilli plus de 90% des suffrages. Alain-Claude Bilibinzé termine, lui, deuxième avec 3% des voix et les six autres candidats, eux, sont en dessous des 1% de suffrage. Alors comment expliquez-vous un tel plébiscite pour Oligui Nguema ? Comment a-t-il réussi à fédérer le plus grand nombre d'électeurs ? Et racontez-nous comment vous avez vécu ce samedi électoral. Plusieurs d'entre vous nous disent sur les réseaux sociaux avoir vécu une journée historique, une historique pour la démocratie gabonaise. RFI en tout cas vous donne la parole à partir de 9h40, heure de Libreville. 33 9 693 693 70 et vos commentaires également, comme tous les matins, sur Facebook et WhatsApp. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour à Aboubacar.
Bonjour, RFI.
Ravi de commencer la semaine avec vous. Vous êtes à Dakar, au Sénégal, et vous avez des questions concernant justement l'opposition parlementaire de votre pays.
Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de passer à l'antenne. Alors, au Sénégal, l'opposition, les députés de l'opposition ont prévoit de boycotter la séance d'actualité, les questions d'actualité prévu aujourd'hui.
Oui.
Alors, ma question est de savoir quelles sont les violations qu'ils dénoncent, du règlement intérieur qu'ils dénoncent.
Alors, c'est vrai que c'est la première fois, en tout cas, dans l'histoire du Sénégal, que l'opposition boycotte la séance des questions d'actualité du Premier ministre. Bonjour Léa Lisa Vesteroff.
Bonjour Juan, bonjour Aboubacar.
Correspondante permanente de RFI à Dakar. Alors, cette plénière était programmée jeudi dernier. Elle se tiendra finalement aujourd'hui, en l'absence donc des 35 députés de l'opposition. Concrètement, que dénoncent-ils ?
Alors, on ne sait pas encore si les 35 députés seront absents, mais en tout cas, ils ont dit qu'une grande partie d'entre eux le seraient. On verra ce matin. Et parmi les violations qu'ils ont relevées la semaine dernière, le fait d'abord que la composition du bureau de l'Assemblée nationale viole la loi sur la parité, cette loi instituée dans toutes les institutions depuis 2010, tout de même, Juan. Ensuite, pour ce qui est du règlement intérieur, l'opposition dénonce le fait de se voir refuser quasiment systématiquement, selon eux, le droit à la parole et de faire des rappels au règlement intérieur, notamment lors de la dernière plénière pour voter la révision de la loi d'amnistie. Autre critique, le fait que le président du Parlement n'a pas respecté l'ordre de passage quand les députés ont demandé la parole, ni l'examen des différents amendements proposés par les parlementaires de l'opposition. Le président du Parlement a estimé qu'il connaissait le règlement intérieur et a accusé les députés de l'opposition de chercher à faire perdre du temps à l'Assemblée dans le processus d'adoption de la loi. Mais au final, au-delà de ces différentes violations du règlement intérieur en tant que tel, les députés de l'opposition disent vouloir alerter sur une attitude de la majorité qu'ils jugent méprisante et condescendante, et en particulier de la part du président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, qui manque, je cite, de la plus élémentaire courtoisie, selon eux, ce qui en soi est une violation des règles de bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, où le président de l'Assemblée, la deuxième personnalité de l'État, ne doit pas avoir une attitude militante, garder une distance respectueuse par rapport à ce qui se passe. C'est du jamais vu, selon les députés du parti de l'ancien président Macky Sall, mais aussi selon plusieurs autres parlementaires de l'opposition qui appellent le président de l'Assemblée nationale à se ressaisir, je cite.
Bon, on verra ça en tout cas ce matin, et on verra effectivement si les 35 députés de l'opposition boycottent tous cette plénière. Aboubacar, votre dernière question vous écoute.
Oui, quel impact ce boycott pourrait-il entraîner, en fait, pourrait impacter sur les activités du parlementaire?
Quel impact ce boycott peut-il avoir sur l'activité parlementaire? Léa Lisa Vesteroff. Léa Lisa Vesteroff, on vous écoute.
Vous m'entendez?
Oui, on vous écoute maintenant, excusez-nous.
Au-delà du symbole qui est fort, vous le disiez, puisqu'un boycott de ce type est une première dans l'histoire parlementaire du Sénégal, le boycott en tant que tel n'aura pas d'impact sur l'activité parlementaire en tant que telle, puisque les députés de l'opposition ont prévenu, il s'agit d'un avertissement, ils ne bloqueront pas l'activité parlementaire et l'adoption des lois. Ce boycott devrait donc se limiter à la séance, à la plénière d'aujourd'hui. Ils ont promis de ne pas venir à la séance des questions au gouvernement qui va avoir lieu ce matin pour témoigner de leur mécontentement auprès du gouvernement et aussi du Premier ministre Ousmane Sonko face à son attitude qu'il juge là aussi méprisante. Les députés de l'opposition lui reprochent de ne pas avoir prévu de temps de réponse une fois que lui se sera exprimé et aura répondu aux questions des parlementaires. Il lui reproche aussi de ne pas venir une fois par mois comme c'est prévu par la loi pour justifier ses décisions devant les députés puisque en 3 mois, presque 4, il n'y a eu que 2 rendez-vous pour le moment devant l'Assemblée. Vous le disiez, l'opposition a 35 sièges en tout au Parlement, à voir s'ils seront tous vides. Ces parlementaires de l'opposition ont en tout cas droit à 4 questions aujourd'hui et 5 minutes de temps de parole à chaque fois. Le Premier ministre lui aura 8 minutes pour répondre aux 10 questions en tout qui vont lui être posées.
Eh bien, on suivra cela avec vous, Léa Lisa Vesterhoff, correspondante permanente de RFI à Dakar. Bonne journée et je remercie Aboubacar évidemment d'être fidèle à la Radio Mondiale et bonne journée à Dakar où on nous écoute sur les 92 FM. 10h17 à Paris, on repasse au standard, on va parler environnement. Demba Moussa, bonjour.
Allô, bonjour.
Soyez le bienvenu et merci de votre fidélité à Bamako. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on vous écoute.
Merci bien, merci. Alors les pays européens se sont mis d'accord pour durcir la loi contre la pollution des microplastiques. Pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser des microplastiques ? Est-ce qu'il y a des alternatives ?
Ah oui, les microplastiques qui envahissent notre vie, on en trouve dans les fleuves, les plages, les océans, les glaciers, ils envahissent notre quotidien, on en a dans notre frigo, dans nos placards. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Juan, bonjour Demba.
Journaliste au service environnement climat de RFI, expliquez-nous déjà c'est quoi le microplastique ?
Parce qu'on ne consomme pas du microplastique, oui. Le microplastique c'est la résultante de la dégradation des déchets plastiques. Ces déchets plastiques c'est 430 millions de tonnes par an, c'est considérable Juan. Alors, c'est quoi un microplastique ? Ça, c'est une très très bonne question. Il y a d'abord ce qu'on appelle les microplastiques primaires. Le microplastique primaire, ce sont des petits granulés qu'on appelle aussi des pellets qui servent à fabriquer du plastique. C'est-à-dire que c'est un plastique qui n'a pas encore été utilisé. Oui. C'est ce qui sert à fabriquer un produit plastique, quel qu'il soit. Cette pollution par les pellets, les granulés, elle représente 25% de la pollution globale des plastiques.
Et c'est une pollution, et je parle là sous votre contrôle, Igor Strauss, une pollution invisible.
Quasiment invisible, oui. Et surtout qui n'est pas biodégradable, avec des répercussions catastrophiques sur l'environnement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les microplastiques secondaires, ceux qui ont déjà utilisé, qui ont déjà été transformés en plastique. Ces microplastiques secondaires, ils sont de 2 sortes. Il y a les microplastiques secondaires. Alors, ça, c'est lié, évidemment, à la dégradation du plastique. Vous prenez une bouteille d'eau, vous l'achetez dans la rivière, elle va se dégrader progressivement, devenir des petits bouts de plastique qu'on va retrouver partout, sur les fleuves, dans les océans. Ça, c'est ce qu'on appelle les microplastiques visibles. Ils sont partout dans l'environnement. Je vais y revenir et vous donner quelques chiffres qui sont assez hallucinants. Mais il y a aussi des microplastiques invisibles. Vous savez, quand votre pneu frotte sur l'asphalte, il va y avoir un tout petit peu de plastique qui va être dégagé, qui va se mettre dans l'atmosphère. Quand vous ouvrez une bouteille en plastique, le fait d'ouvrir et fermer, ça va créer des petites poussières invisibles. Ces chiffres, Juan, la Fondation Tara Océan, qui étudie la pollution plastique dans les océans et dans les fleuves, a récemment sorti une étude sur les fleuves européens, les 9 principaux fleuves européens, partant du principe que 80% de la pollution aux microplastiques qui se retrouve dans les océans vient de terre et donc a été charriée par les fleuves. Et bien, par exemple, ils ont considéré que sur l'ensemble des fleuves européens, la pollution, c'était 3 microplastiques visibles par mètre cube d'eau. Comme ça, ça vous dit rien. Mmh. Mais imaginez que vous regardez la Seine, Juan. À chaque seconde, chaque fois que vous clignez des yeux, 900 microplastiques visibles vont passer à chaque seconde. Ouais. Et pour les microplastiques donc invisibles, c'est fois 1000, Juan. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes envahis d'une pollution invisible.
Il y a donc urgence. On se souvient, parce qu'on en a parlé sur RFI, de la 5e session du comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique qui s'était tenue en Corée du Sud, c'était
à Busan,
à la fin de l'année dernière. Il n'y a pas eu d'accord international contraignant. Les négociations vont donc reprendre dans quelques mois. Au début du mois d'août, ce sera à Genève. Qu'est-ce qui bloque Igor Strauss? Quelles sont les positions des uns et des autres?
Eh bien, vous comprenez bien que tous les États pétroliers, Arabie Saoudite en tête, Russie, Iran, pays du Golfe, bien c'est leur manne financière. C'est pour eux, c'est un débouché économique terrible avec l'émergence des voitures électriques. Évidemment, ils ont besoin de débouchés pour le pétrole et le plastique est une formidable opportunité de vendre du pétrole. Ces pays sont donc dans un déni, disons-le clairement, Juan. Je vais, petite anecdote, j'ai interviewé lors de la COP sur la dégradation des terres à Riyad avec Anne-Cécile Bras qui produit l'émission C'est pas du vent, nous avons interviewé le ministre saoudien de l'environnement. Pour lui, le plastique n'est absolument pas un problème. Il mise sur le recyclage. Il faut savoir que le recyclage aujourd'hui, c'est à peine 9% du plastique mondial. Le reste, il finit dans des décharges ou dans la nature. Nos auditeurs en Afrique sont au courant.
Et en même temps, il y a des pays qui, eux, plaident, militent pour l'interdiction des produits chimiques, justement.
Et bien sûr, alors, parmi les positions, donc, certains veulent un accord contraignant, évidemment, ces pays pétroliers n'en veulent pas. Eux, ils veulent faire ça sur la base du volontariat, ce qui n'est pas terrible. Et on a des pays qui sont précurseurs, comme le Rwanda, effectivement, avec 85 autres pays qui veulent également l'interdiction des produits chimiques. Alors là, on va faire un petit pas de côté pour expliquer à nos auditeurs, Juan, qu'est-ce que finalement du plastique? Le plastique, c'est un polymère, des atomes, auxquels on ajoute des produits chimiques pour donner la caractéristique technique au plastique. Si on veut faire un pneu, évidemment, c'est pas les mêmes caractéristiques pour une bouteille en plastique. Ces produits chimiques, il y en a plus de 16 000. 25% d'entre eux sont connus et sont tous toxiques pour l'homme et pour l'environnement. Ça, c'est ce que veulent les pays comme le Rwanda, qui sont des précurseurs, qui ont déjà interdit les plastiques à usage unique chez eux. Mais évidemment, les pays pétroliers n'en veulent pas, alors qu'il s'agit d'un problème de santé publique.
En deux mots, Igor Strauss, Zemba Moussa nous demandait, est-ce qu'il y a des alternatives?
Il y en a plein. La première alternative, évidemment, c'est de ne pas consommer surtout les plastiques à usage unique. Vous savez, dès que vous allez acheter à la supérette ou un petit quelque chose dans un magasin, on vous donne un sachet en plastique noir. Arrêtez de le prendre, tout simplement. Prenez quelque chose en tissu, un sac en tissu. Le savon qui est dans des plastiques. Enfin, il y a 1000 alternatives. On ne pourra pas tout arrêter. Les pneus, c'est le meilleur exemple. Mais dans la vie de tous les jours, on peut arrêter de consommer du plastique.
Merci infiniment, Igor Strauss. Vos explications sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Journaliste au service environnement climat de RFI. Demba Moussa, continuez à nous écouter, à nous suivre sur les réseaux sociaux à Bamako, dans la capitale malienne. Je vous souhaite une belle journée sur place. Et à Bamako, il est 8h23. Des questions maintenant sur la situation sécuritaire en Haïti. Bonjour Jimmy.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à toute l'équipe technique d'Appel sur l'actualité.
Merci de vos encouragements. Vous êtes en République démocratique du Congo, quelles sont vos questions?
J'ai lu sur le site de RFI, l'organisation Médecins sans frontières a fermé deux de ses centres médicaux de Port-au-Prince en Haïti. J'ai deux interrogations là-dessus, Juan. Sous quelles conditions l'organisation pourrait envisager un retour? Quelle était l'émission de MSF dans ces centres?
Alors, MSF qui est présent en Haïti depuis maintenant plus de 30 ans, effectivement, l'ONG a décidé de suspendre ses activités dans deux structures pendant au moins 3 mois. Bonjour Fabio Biolchini.
Bonjour.
Vous êtes le responsable des programmes de MSF en Haïti. Pourquoi avoir pris une telle décision?
Bonjour. Bon, ce qui s'est passé le 15 mars à Port-au-Prince, c'est un événement extrêmement grave qui a mis en danger nos équipes lors d'un déplacement d'un convoi avec 4 véhicules qui s'est fait tirer au moins 15 fois. Nos équipes n'ont pas été touchées par miracle et on ne peut pas continuer nos opérations si on met en danger la vie de nos équipes.
Donc ce convoi de MSF a délibérément été pris pour cible.
Tout à fait. C'était un convoi clairement identifié avec des drapeaux et des logos des Médecins sans frontières.
D'accord. Et donc il y a eu cette attaque, il y en avait une première quelques jours plus tôt, la décision a donc été prise de fermer ces deux centres. Pourquoi ces deux centres précisément?
Alors, juste pour une précision, donc avant le 15 mars, on avait la ligne des fronts qui s'approchait dangereusement de notre centre d'urgence de Toujou. Donc, on a pris la décision difficile d'évacuer notre staff, qui était vraiment en danger proche de la ligne des fronts. Et lors de cette évacuation, on a eu ces convois qui s'est fait tirer dessus.
Ouais. Vous diriez que depuis 2-3 mois, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée en Haïti et notamment dans la capitale à Port-au-Prince ?
Oui, tout à fait. On voit de plus en plus une dégradation du contexte sécuritaire et humanitaire à Port-au-Prince. Avec aujourd'hui, on a 60% des structures médicales qui sont fermées à Port-au-Prince, au même temps qu'on a le besoin humanitaire qui augmente de plus en plus.
Oui. Quelles sont les conditions que vous posez sur la table pour ouvrir ces deux centres, le centre donc d'urgence de Turgeot, vous en parliez à l'instant, et l'hôpital traumatologique de Carrefour?
Alors, la reprise de nos opérations ne sera envisagée que lorsque le contexte sécuritaire aura évolué de manière à garantir la sécurité de nos équipes et un accès sécurisé aux populations vulnérables.
C'est-à-dire que vous lancez clairement un appel à la police haïtienne, voire même à la mission multinationale de sécurité qui est menée par le Kenya, qui a déployé des hommes sur le terrain et qui visiblement pour l'instant semble dépassé par la situation.
Bon, de notre part, ce qu'on veut voir, c'est des réponses à ces incidents, pas seulement ce qui s'est passé au 15 mars, mais aussi le 11 novembre dernier. Voilà, ça contribuerait à notre analyse sécuritaire pour une reprise de ces activités.
Fabio Volchini, Jimmy, voulait savoir concrètement quelles étaient les missions de MSF dans les deux centres qui viennent de fermer.
Alors, à Carrefour, on a un centre de traumatologie, un hôpital qui prend en charge des blessés, de victimes de violences, de balles perdues, mais aussi d'accidents de la route, des chutes graves, etc. À Turgeot, on a aussi un centre d'urgence, de stabilisation, où les patients restent jusqu'à 72 heures et après ils sont référés à d'autres hôpitaux. C'est important aussi à mentionner que ces deux structures de santé sont liées parce que voilà, on fait pas mal de références entre les deux centres. Oui. Et donc les deux centres dépendent un de l'autre pour fonctionner.
Et dans le communiqué de Médecins Sans Frontières pour justement annoncer la décision de suspendre ses activités dans ces deux structures, il est précisé qu'au moins 36 000 personnes ont bénéficié d'une prise en charge de vos équipes dans ces deux centres rien qu'au cours des 3 premiers mois de cette année.
Alors, juste pour une précision, on a pendant janvier et mars, on a pris en charge plus de 750 blessés sur ces centres et on a fait 3600 consultations.
3600.
Et on a pris en charge 3600 et aussi 3600 cas d'urgence aussi dans ces structures.
Ouais. D'où l'importance d'ouvrir au plus vite donc ces deux centres de santé. Jimmy Abounia, a-t-on répondu à vos questions ?
Satisfait. Bon début de semaine.
Bon, bah merci à vous et un grand merci à Fabio Biolchini d'avoir pris quelques instants pour vous répondre. Je rappelle que vous êtes le responsable des programmes de Médecins Sans Frontières en Haïti. On arrive quasiment à la fin de cette première partie. Malheureusement, on n'a pas le temps de prendre une dernière question, mais Samou à Abidjan ne s'inquiète pas. On le rappellera évidemment au plus vite. En tout cas, pas demain. Demain, RFI va vous proposer une journée spéciale. Soudan, 2 ans après le début de la guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et poussé plus de 12 millions de personnes à fuir leur foyer. Ce sera l'occasion, en première partie demain matin, de prendre le temps de répondre à toutes vos questions pour mieux comprendre les enjeux de ce conflit. Et je vois que sur les réseaux sociaux, vous avez été déjà très nombreux à nous envoyer des questions tout au long du week-end. Donc on va vous rappeler dans la journée, on va préparer tout cela. Et demain matin, donc, en première partie, émission spéciale, Soudan, 2 ans après le début de la guerre. Vous restez avec nous sur RFI, on continue à vous donner la parole, ce sera juste après le journal Afrique et on parlera Gabon, évidemment, avec ses résultats annoncés hier par le ministère de l'Intérieur, résultats encore provisoires, il faut qu'ils soient confirmés par la Cour constitutionnelle. En tout cas, Brice Oligui Nguema, le président de la transition, a remporté le scrutin présidentiel dès le premier tour avec plus de 90% des voix. Comment expliquez-vous ce raz-de-marée électoral en faveur du président de la transition? Et maintenant, quelles seront les priorités du futur président? On en parle tous ensemble dans 10 minutes. Merci d'écouter.